soit numérique et tais-toi.
Le numérique nous rapproche de cette réalité.
Allez, je vais t'apprendre 2-3 petits trucs.
Le numérique matérialise la réalité qui nous entoure.
J'ai rien compris.
Non, ou alors c'est moi.
Non, moi non plus, j'ai rien compris.
Tais-toi, va, Fada.
Le numérique, c'est avant tout du traitement de symboles.
Tais-toi.
Qu'est-ce que tu racontes? Tu connais rien, toi.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de Sois numérique et tais-toi, l'émission qui chaque semaine aborde en 10 minutes une des multiples questions sur les technologies numériques et informatiques qui s'occupent de nos transports en métro, de nos courses à pied et de nos animaux de compagnie. Et tant pis pour vous si vous n'avez pas lu les 94 pages de conditions générales d'utilisation. Cette semaine, nous allons parler de quelque chose que l'on voit de moins en moins, qui n'a pas d'odeur et qui devient de moins en moins palpable dans nos vies. Les euros. Et oui, notre monde numérique repose sur le paiement dématérialisé. Ce sont nos euros, composés de 0 et de 1, qui circulent à la vitesse de l'électricité. Oui, je vous parle de vos paiements en carte bancaire et du virement de vos salaires et tous ces euros qui circulent et que l'on a de moins en moins entre les mains. Alors, de quoi parle-t-on ? Bon, premièrement, la monnaie, c'est quoi ? Pour faire simple, c'est un instrument de paiement. Il permet de constituer une valeur intermédiaire pour les échanges. En ce sens, la monnaie résout le blocage du troc en créant un objet que tout le monde accepte en échange. Et pourquoi tout le monde accepte la monnaie ? Parce qu'il existe une confiance dans sa valeur. C'est pour créer cette confiance que pendant longtemps la monnaie était fabriquée en or ou en argent, et avaient une valeur correspondant à leur poids en métal. Mais en vérité, si cela fait longtemps que les pièces qui circulent ne sont plus en or ou en argent, jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle, beaucoup de monnaies étaient encore indexées sur l'or. Cette situation a pris fin définitivement en 1971 lors des accords de Bretton Woods, où les États-Unis ont arrêté d'indexer leurs dollars sur l'or. Depuis, notre monnaie est uniquement fiduciaire. Essayez de fondre le métal d'une pièce de 2 euros et de le revendre, je vous parie que ça vous rapportera moins que 2 euros. Néanmoins, dès les prémices des grandes administrations et du commerce international, est apparu un outil pour effectuer des transactions importantes de manière facile et sécurisée. La lettre de change. Elle existait dès l'Antiquité chinoise et romaine, notamment pour payer les soldats. En gros, c'est un document juridique qui permet de retirer un montant précis de monnaie auprès d'une institution qui le reconnaît. C'est un peu comme un chèque finalement. Et comme le papier tend à disparaître avec la numérisation de nos activités, la lettre de change a été remplacée par des paiements dématérialisés. Autrement dit, lorsque vous faites un virement bancaire, vous envoyez une lettre de change électronique. Par exemple, si je vous fais un virement électronique de 100 euros sur votre compte, vous obtenez un droit de retrait de 100 euros auprès de votre banque. De mon côté, ma capacité à retirer de l'argent de ma banque a diminué de 100 euros. À partir de ce principe, se sont greffés des instruments de paiement, fonctionnant sur le même principe, comme la fameuse carte bancaire. Quand on y réfléchit, ce n'est ni plus ni moins qu'un virement avec une décentralisation des établissements bancaires. Ma carte représente mon établissement bancaire et le terminal de paiement représente l'établissement bancaire du commerçant. Ainsi, un commerçant peut recevoir des virements dans son magasin et un client peut émettre des virements bancaires partout où il emporte sa carte. Le tout sans que chacun n'ait à se rendre physiquement dans sa banque. Mais réfléchissons un instant. Arrêtons ici l'histoire du paiement dématérialisé pour revenir aux espèces, aux pièces, aux billets. Aujourd'hui, je ne vous apprends rien, les paiements dématérialisés dominent les échanges en France. Mais cette transformation de l'usage n'est pas le fruit du hasard. Elle est organisée pour pousser les citoyens vers toujours moins d'utilisation des espèces. L'État limite les droits dans ce domaine. Ainsi, il existe de nombreux plafonds pour ces paiements. Un salaire en espèces ne peut pas être payé au-delà de 1500 euros. Si vous achetez un bien immobilier pour plus de 3000 euros, non seulement vous ne pouvez pas payer en espèces, mais vous êtes obligé de faire un virement électronique. Si en tant que particulier vous payez un professionnel, vous ne pouvez pas payer plus de 1000 euros en espèces, alors que ce seuil était de 3000 euros avant 2015. Enfin, depuis 2019, tout impôt ou taxe d'un montant supérieur à 300 euros doit obligatoirement être payé par voie dématérialisée. Pire, vous ne pouvez pas faire de virement bancaire, vous êtes obligé de faire un paiement en ligne sur le site web gouvernemental ou sur l'application mobile. essayons de prendre du recul sur ce qui est réellement en train de se passer. L'État suit un mouvement plus vaste d'acteurs privés dans le domaine de la finance. Les banques, avec l'incitation aux petits paiements sans contact, les entreprises qui ferment leurs caisses et orientent vers le paiement en ligne, tous ces comportements construisent une idéologie du paiement dématérialisé comme une avancée vers la modernité. Dans un article des colonnes opinion du Guardian du 19 juillet 2018, Brett Scott, un ancien trader devenu militant, alerte sur la limitation progressive de l'usage des espèces qui fonctionne par une stratégie comportementale qualifiée de « nudging » ou « encouragement ». Je traduis ses propos. Si une institution puissante veut faire que les gens choisissent une chose en particulier, la meilleure stratégie est de rendre difficile de choisir une alternative. Pour ceux d'entre vous qui ont essayé d'acheter un billet de train dans un guichet face à un être humain, vous voyez très bien ce que cela veut dire. Scott Brett dénonce aussi les fermetures de guichets de retrait d'espèces qui se multiplient au Royaume-Uni. Il analyse l'affirmation de cette idéologie en mobilisant le concept d'interpellation du philosophe français Louis Althusser. En gros, l'idée est qu'il est possible de faire intégrer des croyances à des individus en les interpellant comme s'ils avaient déjà ces croyances. Je cite son exemple. Il y a 20 ans, personne ne croyait que les espèces étaient incommodes. Mais à chaque fois que je marche dans le métro londonien, je vois les publicités qui m'interpellent comme si j'étais une personne incommodée par les espèces. L'objectif est de rétro-construire une croyance en moi selon laquelle c'est incommode et que le paiement dématérialisé est dans mon intérêt. Mais si l'on réfléchit, à qui profite le paiement dématérialisé ? Ce n'est certainement pas aux citoyens. Certes, une carte bancaire permet de faire des transactions en 10 secondes, alors que cela pouvait durer 30 à 40 secondes avec des espèces. Certains y voient aussi une sécurité. Mais en réalité, le vol d'argent a simplement évolué et concerne désormais surtout les paiements dématérialisés. Bref, les grands gagnants sont les entreprises qui brassent de l'argent. C'est à eux que les espèces coûtent le plus cher. C'est un volume important à compter, à stocker, à déplacer et bien sûr à sécuriser. Les établissements financiers sont d'autant plus gagnants que la dématérialisation permet les comportements d'investissement les plus fous à l'autre bout du monde avec des transactions à vitesse surhumaine. Pour l'État, cela représente aussi un avantage pour le contrôle des activités de la population. Pour la police, les services fiscaux, la traçabilité qui découle de la dématérialisation est un outil qui renforce leur pouvoir. Mais en réalité, la traçabilité est de plus en plus aux mains des entreprises privées, pour lesquelles les transactions financières sont des données personnelles supplémentaires sur le marché des données que nous avions évoqué lors de précédentes chroniques. À cette occasion, j'avais cité un article publié dans Science en 2015 où quatre chercheurs avaient réussi à identifier 90% d'une population d'individus à partir de 3 mois d'historique de cartes bancaires anonymes. Mais alors, et nous dans tout ça ? Vous aussi, chers auditeurs, vous baignez dans cette idéologie. C'est pourquoi vous considérez comme suspect une personne qui fait un paiement important en espèces. Mais pensez que l'on peut aussi y voir le désir d'une vie privée protégée par défaut, et non pas parce que l'on a quelque chose à cacher. Évidemment, vous me direz, les activités illégales ou répréhensibles s'appuient sur la non-traçabilité des espèces pour rester invisibles. Mais honnêtement, pensez-vous sincèrement que la dématérialisation limite l'évasion fiscale ou encore la corruption ? Cela fait longtemps que ces activités s'appuient sur des infrastructures adaptées au paiement dématérialisé. On peut penser aux emplois fictifs, aux sociétés écrans ou encore aux paradis fiscaux qui sont autant d'outils qui limitent la traçabilité des transactions dématérialisées. Je ne peux que vous encourager à utiliser les espèces qui donnent du pouvoir aux citoyens. Elles les rendent indépendants des terminaux de paiement, des comptes en banque et de toute institution tierce. Elles seules permettent de consommer sans systématiquement produire une donnée numérique qui nous identifie, nous localise et alimente un profil de consommateur. Bref, vous l'aurez compris, écologiste ou pas, il est important de militer pour la préservation des espèces partout dans le monde.